J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour Lucille.
Bonjour Virginie.
Et aujourd'hui, nous accueillerons Denise Axentidis, directrice de l'association Forêt Méditerranéenne, qui abordera cette forêt si particulière et le rôle de cette association qui lui est dédiée. Et ensuite, nous aborderons avec Raphaël Beck, ingénieur chargé de mission au Centre National de la Propriété Forestière Occitanie, un projet de recherche Innovilex qui a été dédié au chêne vert, qui est quand même l'essence emblématique de cette forêt méditerranéenne.
Et nous terminerons l'émission avec la fameuse rubrique Plantes des bois et avec Aymeric Sulmont qui, on vous le donne dans le mille, nous parlera du chêne vert. Bonjour Denise.
Bonjour Lucille, bonjour Virginie.
Bonjour.
Donc on va parler un petit peu de l'association Forêt Méditerranéenne. Donc depuis quand est-ce qu'elle existe et pourquoi est-ce qu'elle a été créée?
Alors, elle a été créée en 1978, donc ça date déjà, c'est une vieille association. Elle a été créée par des forestiers méditerranéens qui trouvaient qu'à l'époque, j'allais dire leur monde ou leur profession n'était pas assez ouvert aux autres disciplines ou aux autres métiers de la forêt. Finalement, ça ne collait pas assez bien avec la forêt méditerranéenne. Alors pourquoi? Parce que la forêt méditerranéenne, c'est un lieu où se trouve de nombreux usagers, de nombreuses ressources différentes, des enjeux extrêmement variés. C'est une forêt qui ne produit pas que du bois et qui donc ne répondait pas, si vous voulez, un peu au canon du monde forestier de l'époque, qui était un monde plutôt associé à un monde de production. Donc c'est un peu pour ça que l'association a été créée. Donc pour mettre en avant les spécificités de cette forêt méditerranéenne, qui n'est pas qu'une forêt de production, et rassembler les personnes pour échanger, partager, se connaître entre les différents acteurs de la forêt.
D'accord, donc ça ce sont ces actions à l'association ou il y en a d'autres également?
Alors ça ce sont, j'allais dire, ces objectifs premiers. Okay. Alors ces actions pour mettre en œuvre pour mettre en avant la spécificité de la forêt méditerranéenne, pour rassembler les gens, elle organise des journées, des colloques, des rencontres, des séminaires. Ça peut être en salle ou bien sur le terrain. Et toujours dans cet esprit de rassembler des gens extrêmement variés, issus de disciplines différentes, issus également de secteurs géographiques différents, dans l'idée que chacun sache ce que fait un peu l'autre dans toute cette façade méditerranéenne française. On rassemble ainsi des scientifiques, des propriétaires forestiers, des gestionnaires, des usagers, des associations, des institutions, des élus. Toujours cet esprit un peu de rencontre pluridisciplinaire. C'est une première action, un premier champ d'action important, la rencontre. Elle a aussi un deuxième champ d'action qui est celui de la publication. On édite une revue technique qui s'appelle Forêt Méditerranéenne. Et là, actuellement, on est à peu près à 2000 articles que vous pouvez retrouver en ligne sur les sociaux aussi. Et elle édite également un petit bulletin d'information trimestriel qui s'appelle La feuille et l'aiguille. À travers ces actions, on est une sorte, si vous voulez, d'ensemblier, un peu de tribune, de lieu d'engagement, un outil de résonance aussi pour les actions de chacun. Et aussi, on a un objectif, c'est de faire remonter auprès des décideurs tous les résultats de nos réflexions, tout ce qui permet de sensibiliser à la question forestière méditerranéenne.
D'accord. Et combien est-ce que vous êtes à travailler à l'association et combien d'adhérents avez-vous?
Alors les adhérents, on a entre 250 et 300 adhérents suivant les années. Alors, le nombre de personnes, je suis la seule salariée. Bon, ça, c'est lié, j'allais dire, au problème des structures associatives de nos jours, avec des moyens en baisse et des moyens un peu limités. Mais ceci dit, je suis encadrée par une trentaine de membres du conseil d'administration qui sont tous des bénévoles et qui sont extrêmement actifs au sein de l'association. Donc ça, c'est très encourageant de voir voilà cette forme de volontariat, de bénévolat qui est très important dans l'association.
Et où est-ce que vous êtes basée, alors ?
On est à Marseille. On est basé à Marseille, mais le champ d'action de l'association, c'est toute la région méditerranéenne française. Ça veut dire qu'on va sur tous les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les départements, enfin j'allais dire, de Aix-Languedoc-Roussillon, la Corse et également Drôme-et-Ardèche.
Ok. Tu nous as parlé de façade méditerranéenne. Est-ce qu'il y a d'autres pays ou...
Alors, on n'a pas d'action spécifique dans les autres pays méditerranéens, mais on organise chaque année un voyage d'études dans un autre pays, donc tous les pays du nord de la Méditerranée, mais également de la face sud de la Méditerranée, pour échanger et partager également avec les forestiers et tous les autres acteurs de ces autres forêts méditerranéennes, parce que c'était aussi un peu l'idée des personnes quand elles ont créé cette association en 1978, c'est d'aller prendre l'expérience des autres également, des autres pays, puisque, j'allais dire, on est plus proche des forêts méditerranéennes du sud que des forêts françaises du nord de la France.
Et toi, Denise, dans l'association, quelle mission, enfin, tu as dit que tu étais directrice coordinatrice, quelle mission tu assures et depuis combien de temps? Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené à l'association Forêt Méditerranéenne?
Oui, alors ça fait longtemps que j'y suis, j'y suis rentrée dans le début des années 90 et j'y suis encore.
C'était aventure.
Alors bon, vu que je suis la seule salariée actuellement, mon travail, j'allais dire un peu, encore une fois, comme toutes les structures associatives, ça va de la gestion administrative de base de l'association jusqu'à l'organisation des réflexions, des rencontres, la rédaction des publications. Donc c'est extrêmement vaste, extrêmement varié, comme un travail quotidien. Heureusement que je suis épaulée par les membres du CA pour faire tout ça. Alors, qu'est-ce qui m'a attirée dans cette structure? J'allais dire Méditerranée, forêt, communication. C'est vraiment les trois aspects qui m'ont plu. Et aussi, j'aime beaucoup l'esprit de l'association. Il y a beaucoup de bienveillance et d'écoute dans l'association. Et par exemple, dans chacune de nos réunions, chacun peut prendre la parole et chaque parole a la même valeur. Et moi, ce qui me fait plaisir dans mon boulot, c'est que combien de fois est-ce que j'ai entendu des nouveaux venus au sein de l'association qui m'ont dit « Waouh, chez vous, je me sens écoutée », c'est quand même super rare, quoi. Et ça, c'est un grand plaisir. Et cet esprit n'a pas changé toutes ces années. Et tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'association ont continué dans cet état d'esprit. Voilà, et ça me plaît bien. C'est pour ça que j'y suis encore.
Et alors, qu'est-ce qu'une forêt dite méditerranéenne?
Waouh.
C'est un sujet.
Écoutez, 40 ans après la création de l'association, je crois qu'on en débat encore. Donc, c'est une question, c'est pas une question sans fin, mais en fait, tout dépend de l'angle et de la discipline avec laquelle on va aborder cette question. Le géographe aura sa définition, le sociologue aura sa définition, le botaniste aura sa définition. Allez, si je prends une définition qu'on aime bien donner, ça c'est plutôt au niveau, j'allais dire, bioclimatique. C'est une forêt qui a soif quand elle a besoin de pousser. En fait, c'est ce qui caractérise un peu le climat méditerranéen, où on a période sèche et période chaude qui se superposent l'été, donc qui crée des conditions, des contraintes très très particulières, qui fait que voilà, c'est un milieu extrêmement adapté, cette sécheresse estivale et qui donne donc ces essences et ces paysages très très particuliers. Donc ça, c'est une des définitions. D'autres diront que ce qui caractérise la forêt méditerranéenne, c'est plutôt sa multifonctionnalité, j'allais dire intrinsèque. Cette multifonctionnalité, elle est liée à cette longue histoire commune entre hommes et forêts qui est extrêmement caractéristique de la forêt méditerranéenne. Et moi, j'aime bien cette définition qui rassemble l'humain et la forêt. On voit bien que la forêt méditerranéenne, c'est une coévolution entre tous ces systèmes sociaux et écologiques. Et l'idée, c'est que la forêt a de tout temps apporté des ressources, hein, variées, des biens, des services aux populations, et que tout l'enjeu est que maintenant, ça continue dans un cadre de développement durable et harmonieux.
Et justement, est-ce que tu as des réalisations qui t'ont marqué ces dernières années que vous avez menées avec l'association ?
Oui, enfin, il y a tellement de sujets passionnants qu'on a traités, qui ont chaque fois permis la rencontre de gens très variés, je ne pourrais pas toutes vous les citer. Actuellement, on travaille sur le thème de l'agro-sylvopastoralisme en forêt méditerranéenne. L'idée est de voir comment combiner, justement à ce que je disais à travers cette multifonctionnalité de la forêt, comment combiner les ressources, qu'elles soient agricoles, forestières ou pastorales, pour valoriser et préserver les espaces forestiers méditerranéens. Donc ça, c'est un sujet passionnant parce qu'on est au cœur de la forêt méditerranéenne qui allie tous ses usages et toutes ses ressources. Donc ça c'est notre thème actuel. Les années précédentes, on a travaillé sur le thème du carbone et de la forêt méditerranéenne.
Ah ouais, c'est d'actualité. Ouais,
c'est un sujet à la mode. Hein. Et c'est vraiment utile de faire le point des connaissances sur le sujet parce qu'on dit tellement de choses sur le carbone. Là, on a fait une série de journées où on a abordé aussi bien l'état des connaissances avec les scientifiques que ce que ça va être concrètement opérationnellement sur le terrain, cette question de séquestration du carbone, comment on peut la mettre en œuvre sur le terrain. Ça aussi, c'est assez passionnant de rencontrer aussi bien des scientifiques que des gestionnaires ou que des propriétaires qui veulent s'investir dans ces questions de carbone. Voilà quelques exemples.
Ok. Et toi, Denise, qu'est-ce que tu as préféré ? Est-ce qu'il y a une mission qui t'a vraiment marqué, enfin que tu as vraiment apprécié ?
Plus qu'une mission, c'est une façon de voir les choses que j'aime beaucoup au sein de l'association, c'est les voyages d'études forestiers qu'on organise soit en France soit à l'étranger, comme je vous l'ai dit précédemment. Parce que sur le terrain, et en restant plusieurs jours en groupe, c'est complètement différent pour aborder les questions, appréhender les choses. On apprend à se connaître entre nous, les choses sont pas pareilles, les échanges sont plus nourris. On prend le temps de la réflexion, on voit de belles choses. J'ai vraiment de très grands souvenirs et de grands moments de convivialité en forêt, de discussions passionnantes quand on reste vraiment sur le terrain, au cœur de la forêt, avec des gens et sur une longue durée.
On comprend. Et du coup, oui, on va parler d'un rassemblement que vous avez organisé. On va parler d'Innovilex. C'est un projet de recherche-développement dédié aux chênes verts. Quel a été le rôle de l'association Forêt Méditerranéenne dans ce projet ?
Alors, dans ce projet, on a été sollicité pour jouer pleinement notre rôle de facilitateur des échanges et de la communication, puisque nous avons été chargés d'organiser les deux séminaires de restitution des résultats des travaux de recherche d'Innovilex. Et l'idée était de restituer ces résultats en les ouvrant à un public plus large. Donc c'est à cette occasion qu'on est venu chez vous dans le pays Cévennes, où on a complété un séminaire donc qui a eu lieu à l'Est par une journée sur le terrain. Et ça, c'était très intéressant pour toucher à la réalité du terrain et des enjeux locaux d'un tel programme de recherche-développement.
En tout cas, ça a été une journée super appréciée, ouais.
Ouais. Et on a organisé également un deuxième séminaire donc de restitution, et là en Corse. Là également, on est allé sur le terrain, deux jours en Corse. Et une fois de plus sur le terrain, vraiment, c'est un lieu d'échange vraiment très, différent, quoi, et très intéressant. Donc, on est allé un jour en forêt publique, un jour en forêt privée, et là aussi, ça nous a permis de voir d'une part les résultats sur le terrain des zones expérimentales de Innovilex et d'ouvrir la discussion avec les propriétaires notamment.
Ok, et comme ça nous donne vraiment très envie de venir, est-ce qu'on peut adhérer à l'association et si oui, comment ?
Oui, alors bien sûr, et vous êtes tous les bienvenus à l'association. Toutes les infos sur ce que l'on fait, la façon d'adhérer, l'adhésion est de 25 euros. Vous trouverez ces infos sur notre site qui est www.forêt-méditerranéenne.org.
D'accord. Et un dernier petit mot un petit peu d'actualité. Donc, tu es en ce moment au Congrès mondial de la nature qui se déroule à Marseille. Et comment l'association y participe ?
Alors, on a été sollicité pour deux choses. D'abord, j'étais sur le stand du comité français de l'UICN. Il y avait une après-midi consacrée à la forêt. Et nous avons été conviés à présenter la gestion de la forêt méditerranéenne. Donc, c'est intéressant qu'un congrès mondial ayant lieu à Marseille, on puisse parler de cette forêt méditerranéenne. Et le message que j'ai essayé de faire passer, c'est celui dont je vous ai fait part là tout au long de cette interview, c'est l'importance de la gestion multifonctionnelle de la forêt méditerranéenne. Parce que cette gestion multifonctionnelle permet d'assurer finalement une grande diversité d'habitats, une grande biodiversité, et que c'est clairement une source d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Voilà, c'est le message qu'on a essayé de porter et que l'on va porter également ce soir, puisque nous-mêmes organisons dans le cadre du congrès une nouvelle conférence sur la forêt méditerranéenne aux archives départementales à Marseille ce soir.
Parfait, merci. Et ben, on le demande à chacun de nos invités, est-ce que tu aurais un petit mot forestier à ajouter ?
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment été... c'est la variété de la forêt qui est méditerranéenne qui m'a vraiment frappée et que j'ai découverte grâce à mon travail au sein de l'association. Alors, moi, je suis née au bord de la Méditerranée, à Marseille. Ah. Et là, pour moi, la forêt, c'est les pins qui s'accrochent, vous savez, à la moindre falaise. Là, on voit ces images des calanques, là, où le pin d'Alep, on voit ses racines hein, dans la moindre faille de calcaire pour aller trouver de l'eau et survivre.
Ça, c'est
l'image de ma forêt méditerranéenne. Et puis, avec mon boulot, moi, j'ai également découvert d'autres forêts méditerranéennes, avec jusqu'à des arbres, hein, des forêts avec des fûts bien droits, des ambiances ombragées, humide, moussu, hein, qu'on ne soupçonne pas en Méditerranée. Et voilà, et la forêt méditerranéenne, c'est ça. C'est ces deux extrêmes et c'est tout le gradient qu'il y a entre les deux, quoi. Donc, moi, je dirais une merveilleuse diversité.
Merci, Denise.
Merci
à bientôt.
À bientôt,
Denise. Merci. Et on vous propose une petite pause musicale aux sonorités méditerranéennes en rejoignant le groupe italien de danse traditionnelle Canzoniere Grecanico Salentino avec leur chanson Taranta.
Sentire il mio dolore e ci mi porta l'acqua per sanare e ci me porta l'acqua per sanare. A ci che tu la grazia, a ci che tu la grazia, a ci che tu la grazia per guarire. Un santo si è tanta da me bene, un santo si è tanta da me bene, ma non me la sei me, ma non me la sei me, ma non me la sei me, pace e pacire. Ci è tanta non me abbandonare, ci è tanta non me abbandonare, ci parli solo no, ci parli solo no, ci parli solo no.
Bonjour Raphaël Beck, tu es ingénieur chargé de mission au Centre national de la propriété forestière Occitanie. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est le Centre national de la propriété forestière, dit CNPF, et quelles ont été tes missions dans cette structure ?
Oui, alors bonjour. Le Centre national de la propriété forestière, c'est un établissement public qui est garant de la gestion durable des forêts privées, et donc qui travaille avec les propriétaires privés de forêts pour les conseiller, les former également, et puis agréer leurs documents de gestion. Et on a également des missions d'acquisition de connaissances, d'études, de recherche et développement. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi je travaille sur différents projets, donc en l'occurrence le projet sur le chêne vert Innovilex.
D'accord, donc avant de parler de ce projet de recherche, est-ce que tu peux nous présenter le chêne vert avec quelques données clés ?
Oui, alors le chêne vert, donc c'est une essence plutôt méditerranéenne qui est présente sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, à peu près partout en Espagne, une bonne partie de l'Italie, la Grèce, et puis en région méditerranéenne en France. Un petit peu sur la façade atlantique également en France. Elle couvre à peu près 740 000 hectares, avec les deux tiers sur le continent et un tiers en Corse. Et puis donc c'est un chêne, contrairement aux autres chênes du centre de la France, qui est méditerranéen et qui est sempervirent, donc qui ne perd pas ses feuilles en hiver. Il pousse un petit peu plus lentement, mais il est plus adapté aux conditions, au climat un peu sec de la Méditerranée.
D'accord. Et du coup, quels sont les enjeux de cette essence en forêt méditerranéenne ?
Alors, en forêt méditerranéenne, on a des surfaces importantes. Hein. Ça représente quand même 4 à 5 % de la surface forestière française, avec des bois qui ont très peu été gérés depuis 60 à 80 ans. Qui ont très peu été exploités. Auparavant, on avait une ressource vraiment d'utilisation en bois de chauffage, et c'est toujours le cas, mais c'est beaucoup plus restreint et beaucoup moins développé. Et donc, on a un enjeu à améliorer la gestion de ces bois pour ne pas tout laisser vieillir et profiter éventuellement de qualités de bois intéressantes pour d'autres usages. Mmh. Il y a évidemment l'enjeu de bois de chauffage qui reste important. Et puis il y a des enjeux autour de divers autres produits qu'on trouve en forêt méditerranéenne, et puis au niveau des risques de l'incendie, etc.
D'accord. Et donc tu viens d'en parler, on le valorise actuellement en bois de chauffage. Est-ce que aujourd'hui on le valorise d'autres manières, le chêne vert?
Alors c'est essentiellement du bois de chauffage. Les autres usages sont pour l'instant marginaux, mais on s'est intéressé à son utilisation en bois d'œuvre, en bois de structure. Mm-hmm. Donc pour cela, il faut caractériser ses propriétés technologiques, sa dureté, sa résistance, etc. Donc on a identifié avec différents laboratoires qu'il avait des bonnes propriétés mécaniques. D'accord. Et puis il y a des usages un petit peu artisanaux en outils et en petits objets d'artisanat.
D'accord. Et donc quand on en vient au projet de recherche-développement Innovilex, est-ce que tu peux nous présenter ce projet, pourquoi il a été mené, par qui a travaillé dessus, et est-ce que tu peux nous présenter peut-être une ou deux actions phares de ce projet?
Donc le projet Innovilex, donc innovation pour le chêne vert, Quercusilex, il a été mené donc depuis 2017 par le CNPF, l'Office national des forêts, l'ONF, l'inventaire forestier national, l'IGN, deux laboratoires du CNRS, l'IMBE et le CEF, et puis l'association Forêt Méditerranéenne, donc six partenaires qui ont travaillé ensemble pendant 4 ans. Le projet vient de se terminer. Et donc les objectifs, c'était de mieux connaître finalement le chêne vert. Alors, des exemples d'actions qui ont été menées. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur son potentiel de croissance en fonction des différents milieux, à caractériser les milieux qui lui étaient plus ou moins favorables pour la croissance. Et c'est passé par une étude assez importante sur les cernes du bois, l'accroissement des cernes du bois année après année. Et puis un autre volet, c'était d'étudier également les risques qui pesaient sur cette essence, notamment en termes de sécheresse, qui peuvent provoquer des ralentissements de croissance, des affaiblissements, voire des phénomènes de mortalité. Donc mieux comprendre ces risques et comment on pouvait s'en prémunir par la gestion.
Et il y a une autre action qui a été assez emblématique, c'est également la production d'un guide de sylviculture sur le chêne vert. Et c'est une réelle nouveauté pour le monde forestier. Pourquoi c'est si important et si révolutionnant? Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce guide?
Alors ce guide, il est peut-être pas complètement révolutionnaire non plus. Il s'appuie également sur des études précédentes. Hein. On a fait tout un travail de bibliographie où on a identifié plusieurs études avec des résultats, mais on y a apporté vraiment un regard assez complet grâce au projet Innovilex. Et puis sur toutes les facettes simultanément, en fait, on a réétudié toutes les facettes, que ce soit au niveau de la croissance, des milieux favorables, moins favorables, des risques, du stockage et de la séquestration carbone, etc. Et donc ce guide, il présente un peu toutes ces conclusions et avec des recommandations en fonction des enjeux. On a croisé nos différentes conclusions avec les enjeux que pouvait avoir une forêt, des enjeux de production de bois, de maintien des paysages, d'une biodiversité particulière, d'accueillir des troupeaux avec du sylvopastoralisme, etc. Et donc, en croisant ces enjeux et nos connaissances, on a pu proposer des itinéraires techniques, des propositions techniques pour des gestionnaires pour tenir compte au mieux de ces enjeux et minimiser les risques.
Et ce guide, il est accessible? On peut le trouver quelque part?
Et donc, ce guide, il est en ligne donc sur le site du CNPF Occitanie. Et il y a des formats papier disponibles éventuellement pour des gestionnaires forestiers à récupérer dans les antennes, dans nos bureaux.
D'accord.
Qu'on donne en réunion.
D'accord, super, merci. Et donc pour le projet Innovilex, vous avez bénéficié d'un soutien financier?
Alors le projet effectivement était soutenu par l'État. Donc c'est grâce au Fonds stratégique Forêt-Bois pour l'innovation. Qui nous a apporté un financement complémentaire important aux six partenaires.
Et dans les résultats de ce projet, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quels sont les résultats les plus marquants pour toi?
Alors, les résultats les plus marquants, ils sont peut-être un petit peu difficiles à exprimer, mais c'est qu'on est capable à présent de vraiment très bien cerner ce que je disais tout à l'heure, les potentiels de croissance et les risques en fonction des différents types de milieux. Et puis on a aussi diffusé vraiment ces nouvelles pratiques, enfin ces possibles itinéraires techniques, et puis on les a mis en application en grandeur nature sur le terrain chez des propriétaires motivés. Ce qui a vraiment suscité des discussions techniques très très poussées, et on aura à présent des références presque expérimentales, en tout cas pilotes sur le terrain, qu'on va pouvoir observer dans les années à venir.
Et ouais, parce que tout ça n'avait jamais été fait encore.
Ça avait été fait à plus petite échelle et moins encadré, moins globalisé.
Et justement, ces résultats, bah, tu parlais de la diffusion. Est-ce qu'il y aura une plus large diffusion? Comment ça va se passer? Et si nos auditeurs et auditrices veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations sur ce projet?
Alors, au-delà du guide, effectivement, dont on a parlé, qui est très technique, on est en train, là, pour la fin du projet, de préparer une petite plaquette de vulgarisation. Qu'on rendra disponible toujours en ligne sur le site du CNPF.
Et qu'on relaiera.
Il y a également des articles qui ont été publiés dans différentes revues, donc notamment la revue Forêt Méditerranéenne et les revues régionales du CNPF. Et donc toutes ces infos, tout sera recensé en ligne sur le site du CNPF puisqu'il est pilote du projet.
Merci.
D'accord. Merci, Raphaël. On va finir avec le petit mot forestier qu'on demande à nos invités. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire part, à partager?
Alors, moi, j'ai choisi deux mots. Mmh. C'est diversité et dynamique, pour vraiment, qui sont vraiment importants, je trouve, en forêt méditerranéenne. On a vraiment une diversité de forêts, de structures, de compositions, de ressources qu'on peut y trouver, d'usages qu'en fait l'homme et qui est important à prendre en compte. Et puis une dynamique de ces forêts, même si on a parfois l'impression de les voir un peu figées, des évolutions naturelles dont il faut tenir compte justement pour respecter et utiliser au mieux cette diversité.
Rien n'est figé avec la nature. Merci Raphaël Beck.
Merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Et vous êtes toujours sur Radio Barta 107FM et nous vous proposons une petite pause musicale avec la chanson Le Chêne de Dionysos.
Je le connais, ce chêne. Je le connais. Il retient l'horizon, il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance. Mémoire sauvée du vent, entre les branches et à travers le temps. Il me connaît, ce chêne. Il me connaît depuis bien longtemps. Il n'oublie rien, le chêne. Je me déchaîne pour remonter le temps de notre enfance. Mémoire sauve du vent entre les branches et à travers le temps. Sur le chemin des conifères, je grimpais. Sur le toit des conifères, je rêvais de vivre en accéléré. Tu l'as planté le jour où je suis né. Il a poussé, le chêne. Dans le ciel, ses branches se sont enracinées. à notre enfance.
Nous sommes de retour dans l'émission Palawan Forêt et donc nous allons retrouver Aymeric Sulman. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Donc tu es toujours garde-moniteur au Parc National des Cévennes et tu vas nous parler du...
Chêne vert, ouais. Évidemment.
Génial.
Alors j'ai fait un petit topo sur le chêne vert, sa répartition. C'est une très rapide description, ses exigences écologiques, et puis ses usages. Et puis des petits topos sur les usages anecdotiques d'antan. Je ne sais pas s'il faut tous les réhabiliter, mais on verra. Alors, le chêne vert, c'est effectivement, comme le disait Denise, c'est un arbre qui caractérise très bien la forêt méditerranéenne et qui a une répartition méditerranéenne au niveau cévenol comme de la France, avec quelques petites excursions côté Atlantique. Alors, en France, par exemple, il monte jusqu'en Bretagne et descend jusqu'à Arcachon. Et en Cévennes, il traverse la limite de partage des eaux en plusieurs points et il fait des petites poches. Alors peut-être que vous connaissez autour de Cocurès, il y a une poche de chêne vert, autour de Saint-Julien-d'Arpaon, autour de Montvaillant près de la Salle Prunée, autour de la montée de Molines à Quézac. Et également à Vébron, puis il y en a d'autres comme ça, des plus petites. Comme des petites poches d'introduction du chêne vert qui vont sûrement progresser dans les années à venir, mais pas à la même vitesse que certaines mousses, comme on en avait déjà parlé, ou des champignons, ou des insectes qui progressent très vite avec le réchauffement climatique. Voilà, alors le chêne vert, tout le monde le connaît, avec ses petites feuilles qui sont légèrement dentées, voire avec des petites, légèrement pointues, comme le houx. D'ailleurs, ils partagent en commun le nom, hein, Quercus ilex. C'est ilex, c'est le nom du houx en latin. Et puis, il y a plein de petites différences entre ces deux arbres, mais je ne vais pas insister là-dessus. Je pense que tout le monde les voit bien. C'est un arbre qui est complètement indifférent au substrat. Il va pousser aussi bien sur calcaire que sur silice. Donc, ça, il ne va pas permettre de définir la roche qui est en dessous quand on le voit de loin. En revanche, sur un versant cévenol, classiquement, le chêne vert, il va se développer en abondance sur les zones rocheuses les plus difficiles à cultiver. En général, il les caractérise les sols maigres.
D'accord.
Et sur un versant qui va être peuplé de chêne vert et de châtaignier, typiquement, le châtaignier, il sera sur les combes avec des sols profonds et le chêne vert sur les zones rocheuses où de toute façon, on n'aurait pas pu cultiver. Et donc, il est vraiment... c'est un arbre qui aime le chaud, qui aime la lumière, qui aime le sec et qui tolère relativement bien le froid puisque il peut monter jusqu'en 1500 mètres en Corse. Et côté cévenol, on connaît quelques chênes verts sur le sud de l'Aigoual à 1200 mètres et quelques... Sur le Mont-Lézère, il monte à 1150 mètres truc de la Pialade, pour ceux qui connaissent, sur la montée au-dessus de Genelac. Il monte jusqu'au Mont-Mars. Le Mont-Mars, c'est le sommet du massif de Fondmors, entre Barre des Cévennes et Col de Jacques-Crest. Et puis également sur le Ventalon, pour ceux qui connaissent, dans la vallée de la Vallée Longue, où il monte jusqu'à 1050 mètres. Donc, c'est des arbres qui tolèrent un peu le froid et... mais qui sont voilà plutôt de milieux très secs. Les usages, tout le monde les connaît aujourd'hui, et c'est surtout bois de chauffage évidemment, mais et charbon de bois autrefois. C'était un très très bon charbon de bois. Et c'est plein d'usages aussi en ébénisterie, marqueterie, parquet, manche d'outils, sabots, tout ça c'est des usages qui ont un peu disparu. Le charronnage aussi pour les roues de charrette, bon ça c'est complètement oublié. Mais c'est un bois dur qui résiste bien au frottement. Et il a une caractéristique quand on le polie, je ne sais pas si vous avez déjà vu un tronc de chêne vert coupé,
oui.
C'est qu'on ne retrouve pas ou très difficilement les cernes de bois, donc pour compter son âge c'est très délicat. Et puis j'ai évidemment ouvert mon bouquin que j'adore, c'est le bouquin de Cazin qui date de 1868, c'est un traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes et il y a un topo sur le chêne en général, mais vous savez que le chêne vert a beaucoup été récolté non pas seulement pour le bois de chauffe en Méditerranée, en Garrigue, mais aussi et surtout pour l'écorce qui à un moment donné produisait du tanin et qui avait une valeur marchande presque plus intéressante que le bois. C'est-à-dire que c'est, oui, après c'est des chiffres en francs, mais je ne vais pas vous donner des. Mais c'était plus intéressant de récolter l'écorce que le bois. Et donc il y a plein d'usages sur le tanin. Alors là, on raconte quelqu'un qui a nourri son cheval avec 10 kilos d'écorce pendant un mois. Et il s'est rendu compte qu'à sa mort, le cheval, il était quasi imputrescible. Alors, c'est assez curieux, ce genre de choses. Donc, c'est un anti-putréfaction. Manger de l'écorce de chêne vert, vous resterez intact après votre mort. Il a des vertus fébrifuges. Mais c'est de toutes ces vertus-là que je vous donne, je les déconseille, parce que c'est quand même extrêmement... le tanin de l'écorce, c'est très, très douloureux.
C'est quoi, fébrifuge?
Fébrifuge qui fait fuir la fièvre. Mélangé à d'autres
fébrifuges
qui fait fuir la fièvre. Il a également des vertus vermifuges. Alors si vous prenez du tanin de bon matin, du tanin de chêne, vous faites fuir vos vers si vous avez des vers. Voilà, c'est très intéressant. Ça a été utilisé contre certaines hémorragies. Il est également utilisé par les débardeurs. C'est assez rigolo parce qu'ils l'utilisent contre les champignons des doigts de pied. Donc il fallait mettre du tanin dans les chaussures. Ah ouais. Pour éviter que ça
macère,
etc. Voilà. Il y a aussi, ça a été utilisé, moi je vous donne, c'est totalement, il faudra vérifier tout ça, hein, j'espère que chacun va pas utiliser ça. Antidote contre les empoisonnements au cuivre, au plomb, à la ciguë, à la stramoine et au jusquiame. Donc c'est assez génial, le tanin de chêne.
C'est super puissant.
Il y a vraiment plein d'usages. Et qu'est-ce que j'ai trouvé rigolo, j'avais envie de vous lire un passage. Ah oui, si, ça m'a beaucoup plu. Alors, il cite un de ses collègues, hein, Dubois de Tournai, était atteint de violentes douleurs dans le ventre, fut guéri comme par enchantement en avalant une certaine quantité de gland râpé dans un petit verre d'eau de vie. Il se demande avec raison à laquelle de ces deux substances on doit attribuer le soulagement qu'il éprouve. Voilà, bref. L'eau de vie de bon matin ou quelques glands râpés, et vous aurez plus mal au ventre.
C'est la recette du jour.
Voilà. Que peut-on dire encore sur les glands? Ben en fait, les glands, il y a plein d'usages et les Espagnols ont même une variété de chêne vert qui cultive la sous-espèce balota, pour ceux qui veulent bien entendre du latin, et qui a des glands consommables autant par les bestiaux que par l'humain. Et on préparait des farines à base de ces glands.
Ouais.
C'est encore utilisé de nos jours. C'est peut-être une essence qui pourrait être introduite dans nos régions méditerranéennes, mais on n'en entend pas finalement beaucoup parler. Mais je crois qu'elle existe en France. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Denise qui parle de la chêne verte comme la forêt méditerranéenne et la chêne verte en particulier. C'est pas qu'une forêt qui produit du bois. C'est une forêt qui produit de l'ombre, de l'herbe, des glands, de la biodiversité. J'aime bien cette approche vraiment
cloisonnée
et binaire, quoi. Voilà, multifonctionnelle. Voilà, j'ai fait un petit tour du chêne vert. Il y aurait encore sans doute beaucoup à dire, voilà, mais...
Ouais.
C'est une essence qui est en voie de progression, probablement dans ses veines. Mais on voit d'un certain côté, un petit détail, c'est que les gros épisodes de sécheresse qu'on a eu ces dernières années, dans les parties les plus sèches, j'ai notamment vu ça sur Vialas, mais ça s'est vu beaucoup ailleurs,
oui.
Le chêne vert qui meurt parce qu'il dépasse, il ne peut plus vivre dans certaines conditions de sécheresse comme on l'a vécu.
C'est vrai.
Et donc, voilà, il y a raison de plus pour... préserver la forêt, en fait, c'est un peu la meilleure arme, je pense, pour le réchauffement climatique.
Et le projet Innovilex qui a montré que une gestion forestière, des éclaircies, peut aider justement à cette résilience par rapport au changement climatique. Merci Aymeric.
À bientôt.
Merci. À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas 107 FM. Cette émission de Palabre en forêt s'achève et nous souhaitions avoir une pensée ému pour la famille et les proches de Jean-Claude Combes, scieur à Bar-les-Cévennes, qui nous a quittés il y a quelques semaines. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt. À bientôt, Lucille.
Salut, Virginie.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux.